9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec la Coupe du Monde qui se profile à l'horizon. Hier, on a eu un, bon, malgré quelques incidents, un superbe match entre la Tunisie et le Brésil, largement remporté 5-1 par le Brésil. La Tunisie, prochaine adversaire de la France. Et si vous voulez assister à ce match Tunisie-France, oui, vous ne rêvez pas, parce que je suis bien en train de vous dire, si vous avez envie d'assister au match Tunisie-France à la Coupe du Monde le 30 novembre prochain, c'est possible d'aller au Qatar tout frais payé grâce à RMC, vol, hébergement. Les places pour deux personnes, plus les rencontres avec toutes les équipes d'RMC Sport sur place, Jérôme Rotten, toute l'équipe de l'After. Vous vous inscrivez ensuite, c'est juste un tirage au sort. Pour s'inscrire, vous m'envoyez RMC par SMS au 732-16, RMC par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez. Tirage au sort du gagnant, la gagnante, après-demain, vendredi, en direct sur RMC. RMC par SMS au 732-16 et vous avez la possibilité de partir assister à un match de Coupe du Monde. Si vous êtes fan de foot, ça c'est vraiment le rêve d'une vie. Rendez-vous vendredi. On y va pour le « À vous de choisir ».
RMC, les grandes gueules.
À vous de choisir.
On vous avait proposé sur rmc.fr deux sujets de discussion. C'est vous qui nous disiez celui dont vous voulez que nous parlions. L'offensive islamiste à l'école, d'après une note des renseignements territoriaux. Et puis la plainte pour détournement de fonds publics qui est déposée contre Valérie Pécresse, ancienne candidate à l'élection présidentielle. Vous voulez qu'on parle de l'offensive islamiste à l'école avec une note qui a été rédigée le 27 août dernier par les renseignements territoriaux.
Oui, par en fait précisément le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Cette note qui a été révélée par l'Express en début de semaine et confirmée ce matin par nos confrères du Parisien montre qu'il y a une offensive en ce moment mené notamment sur le web qui vise à déstabiliser l'institution scolaire. Ce document énumère les différentes stratégies qui sont utilisées. Encouragement à porter des vêtements marquant une appartenance religieuse à l'école, incitation à la prière au sein même de l'école, chantage à la photo de jeunes femmes musulmanes qui seraient dévoilées, conflictuation entre personnel éducatif et élèves. Ces messages sont émis d'ailleurs dans leur grande majorité par des comptes anonymes qui sont créés sur la plateforme TikTok et également sur Twitter. On incite notamment les filles à remettre le voile entre deux cours et aller au conflit avec leurs professeurs. Il y a donc un combat, disait un prof de lycée d'ailleurs dans le Parisien, à mener pour la laïcité face à cette offensive islamiste. Est-ce qu'elle vous inquiète ?
Alors Didier, Étienne, Zora.
On peut considérer ces phénomènes marginaux, mais ce n'est pas parce qu'ils sont marginaux qu'ils ne sont pas importants. Et la manipulation, parce que c'est une manipulation de ces jeunes filles, et c'est une manipulation orchestrée sous un islam politique et conquérant qui a pour vocation de montrer ses forces, et quoi de mieux que de montrer ses forces au travers de jeunes filles à qui on explique que être voilée c'est quasiment le socle le plus important de sa foi et de son appartenance à la communauté. Donc oui, il y a un prosélytisme, il y a un islam politique conquérant qui tente de modifier nos codes sociaux collectifs. C'est pour ça que je précise que
c'est une lutte idéologique.
C'est une lutte idéologique, et le drame, c'est qu'on a une partie de la jeunesse qui, entre guillemets, a abandonné, qui a plus de repères, qui est aussi soumise à toutes les violences que connaissent nos sociétés, et qui du coup trouve elle aussi une appartenance à, quelque part.
Preuve aussi d'actes de rébellion.
Mais complètement,
dans
il y a dedans, il y a de tout. Il y a crise identitaire, il y a exclusion, ouais. Il y a discrimination, il y a ghetto qui perdure. Ils vivent tout ce que peuvent vivre les jeunes n'importe où. Et eux, on leur dit, tu appartiens quelque part à la communauté, etc. Donc c'est pas à négliger, c'est important et c'est assez inquiétant.
Moi, ça m'inquiète dans le sens où c'est quand même un phénomène qui pendant des années était cantonné au quartier, à la grande ville, tu vois. C'est quelque chose, moi je me sentais loin de ça, et notre mode de vie rural faisait qu'on n'était pas touché par ce genre de phénomène, et tu sens que le truc qui progresse quand même, quoi, y compris dans les petits collèges ruraux où on commence à voir des filles voilées dès la sortie de l'école. J'ai eu l'occasion par Zora de rencontrer les parents de Mila, la petite Mila, et quand quand le, enfin, j'ai passé une partie de la soirée avec le papa de Mina, qui t'explique que c'est, enfin, alors, ils étaient sur Grenoble, mais c'est plutôt à l'origine des gens ruraux, des gens, enfin, qui se sentaient complètement protégés de ça, et qui t'explique comment, à un moment donné, ce qui fait basculer le truc, c'est quand tout un...
Une meute.
Ouais, c'est ça, c'est une meute de gens sur les réseaux sociaux, décident de te cibler. Et de faire de toi un exemple, quoi. Ça fait peur parce que quand tu causes avec lui, c'est des gens tout à fait normaux comme nous qui, à un moment donné, par le jeu des enfants qui dialoguent sur les réseaux sociaux, se trouvent exposés, mis dans la lumière là-dessus, et leur vie est en danger, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose qui s'emballe autour des réseaux sociaux, et c'est aujourd'hui utilisé.
Non, c'est l'endoctrinement.
Voilà. Ouais, mais c'est utilisé, oui, instrumentalisé, amplifié, quoi. Il y a quand même des réseaux autour de l'islamisme qui permettent de monter une affaire en épingle, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est, on pourrait comparer avec ce qui s'est passé il y a 15 ans. Quand les influenceurs de l'époque, qui étaient en fait des mecs en sandales et avec la barbe, venaient dans les quartiers pour parler aux jeunes, il y a 20 ans même.
Missionnés par les élus. Hein.
Missionnés. Oui, alors il y a eu toute une histoire
On a zappé les éducateurs disparu.
Donc moi, j'ai toujours dit ici, il y avait d'un côté les éducs qui essayaient de récupérer les mômes en disant on va faire.
On excluait.
Et de l'autre côté, il y avait les barbus qui étaient là. Et à ce moment-là, on a. Tous les gens ont dit attention, là, il se passe un truc en ce moment.
Il y a 20 ans.
Des gamins qui ont des difficultés personnelles, identitaires, etc., qui sont un peu paumés, on est en train de les récupérer. Mmh. C'était plus la drogue, c'était l'islamisme. Et là, il va falloir mesurer l'influence, mais ça ressemble effectivement aussi à ce qui s'est passé dans certaines mosquées aussi, certains lieux de prière où il y avait des imams qui disaient n'importe quoi, qui étaient même dénoncés par les gens eux-mêmes, mais personne n'intervenait.
Tout le monde s'en foutait.
Tout le monde s'en foutait. Et on a vu que ça a eu des effets délétères sur un certain nombre de gens qui avaient un QI de bulot. Et donc là, on connaît pas l'influence. Mais ce qui est sûr, c'est que il se passe quelque chose aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant, parce que la criminalité qui passe par les réseaux sociaux a été surmultipliée ces derniers temps. Ouais. Avec une, on voit bien que en ce moment, il y a plein de flics. Dans les flics nouveaux qui viennent d'être nommés, il y en a un bon tiers qui sont sur cette cybercriminalité. Et en fait, faut bien savoir que tout le monde peut être victime de la cybercriminalité, et il n'est pas du tout étonnant que des réseaux islamistes ou des réseaux
utilisent
ça, c'est tout à fait. Et alors TikTok,
parce que c'est une façon d'être caché, quoi.
Qui correspond à la pensée de la jeunesse.
Ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que je suis un peu allé regarder justement les messages qui sont en train d'être passés. C'est de dire, on ne t'aime pas, on ne te veut pas.
Oui, c'est ça.
Donc voilà comment tu dois exister, et voilà comment tu peux exister.
C'est toujours le même truc.
Oui, bien sûr.
Donc, ça veut dire que la République.
Nous, on te veut, eux ne te veulent.
Moi,
dans un tuto qui est relayé par Le Parisien, que je suis allé rechercher, j'ai trouvé, il y a toujours une. Tu sais, c'est la voix. Donc, si c'est la voix
c'est
qu'elle n'a pas de visage, c'est la voix de la conscience, ou c'est la voix, bien sûr, éventuellement, de Dieu. Il y a dans un tuto, il y a une voix qui dit: on t'a éduqué en France pour que tu crois que le bonheur, c'est la scolarité et ensuite l'emploi. Eh bien, sache que le bonheur, c'est d'obéir au créateur du bonheur. Le bonheur, c'est le fait que si tu dois choisir entre Allah et tes études, tu dois choisir Allah.
La question est de savoir, c'est pourquoi ces jeunes filles sont sorties de
ça. Voilà, merci. Je voulais répondre là-dessus.
Après, on peut tourner autour du pot.
Exactement.
Mais c'est parce que d'être provocante, etc., contre l'autorité, on mettait des t-shirts
d'adolescents
et tout ça, c'est un truc d'adolescent où on se met les cheveux en rouge, etc., pour emmerder les parents. Là, c'est pourquoi ces jeunes filles.
Est-ce qu'elles sont sensibles à ce qu'on a les chiffres de
sensibilité? Sont sensibles à ça et vont à tout prix vouloir porter le voile, etc., que leur mère ne portait pas, leur grand-mère encore moins.
Est-ce qu'elles sont sensibles?
Il y a des cas, puisque c'est ce que dit cette note, il y a des cas quand même.
En fait, notre pays a échoué sur pas mal de choses. Il a échoué en particulier, et là je parle de la gauche que je connais le mieux, elle a échoué sur cette, entre guillemets, vivre ensemble qu'elle a toujours vendue, et sur la fin des ghettos, sur la lutte contre le racisme. C'est-à-dire, elle a échoué partout, mais elle fait comme si ça n'avait pas existé. Et ces jeunes-là, il n'y a pas d'ailleurs que des jeunes issus d'immigration, parce qu'il y a des Français bien blancs et de souche qui aussi plongent dans l'islamisme. C'est-à-dire que nos futurs, c'est facile. Moi, je dis toujours que si on vide le vivier de ces mômes à la minorité qui les manipule, ils auront plus personne à manipuler. Sauf qu'on traite toujours pas la question. Vous souvenez des attentats? Qui on appelait sur les plateaux? Les religieux. Mais depuis quand on appelle les religieux pour les questions d'éducation, les questions d'insertion, les questions de scolarité? On continue d'appeler les religieux dans les quartiers. Mais faut appeler les éducateurs, faut appeler les infirmiers, faut appeler les psychologues, faut appeler des gens compétents. Le pays, quand il s'agit des quartiers, on appelle les religieux. Zora, qu'est-ce que le religieux a à voir dans l'éducation d'un môme?
Je crois que c'est un problème. Je crois qu'il faut faire attention aussi sur le fait de confondre la laïcité et le fait de la négation du religieux. C'est-à-dire qu'il se passe. Non, mais attends, il se passe naturellement chez tous les jeunes à un moment une quête religieuse, une quête tout ce qu'on veut, métaphysique, appelons-la comme on la veut, comme on voudra. Et c'est, je trouve que ce moment-là ne doit pas être nié par la société. C'est-à-dire que les enfants et les adolescents ont besoin, non pas de gens qui leur disent, mais tout ça c'est de la connerie, tu sais bien que Dieu n'existe pas, et puis tu es en train de, etc. Ils ont besoin d'avoir un véritable discours qui tienne en compte leur preuve. Alors voilà, c'est toute la question.
Merci.
Qui se pose.
Donc, ça vient.
C'est toute la question.
On connaît
mais
la réponse.
Si la réponse, elle est une réponse qu'on trouve uniquement chez, effectivement, des religieux extrémistes, évidemment qu'on va se casser la gueule. Et c'est vrai pour tout d'ailleurs. Et je trouve que la réponse, elle doit se trouver dans des gens qui amènent à la réflexion.
Modérée.
Voilà. Mais.
C'est pas le cas.
Je trouve, et j'étais moi-même un tenant de cette, parce que je suis plus athée que moi, ça n'existe pas. J'étais moi-même ce tenant-là. Puis en rencontrant des ados de toute confession d'ailleurs, qui ont les questionnements sur métaphysique.
Sauf que là, il ne s'agit pas de ça.
Métaphysique, très souvent, ça joue au départ mais sur ce questionnement. Puis c'est une récupération. Ouais. Alors là. Effectivement, comme il n'y a plus la récupération sur le terrain, parce que tout, il y a eu un nettoyage de tous ces imams délirants. Alors là, maintenant, l'attaque est sur.
Là, il n'y a pas besoin d'imams, là, pardon. Hein, ça se fait sur le web.
C'est ce que je dis. Il n'y a plus d'imams.
Non, mais pourquoi
Quel est le but?
Mais le but, c'est l'islamisation. Le but, c'est quoi? C'est rien d'autre. C'est l'islam politique. C'est l'islam boulot, en conquête. Là. C'est les extrémistes religieux qui considèrent que. D'ailleurs, les extrémistes dans certains pays, en particulier en Algérie, on entendait qu'à chaque fois qu'une femme est voilée, c'est comme un compteur. C'est un marqueur de la progression de leur idéologie. Tu vas dans un endroit, il y a plein de femmes voilées, ils sont contents. C'est-à-dire qu'eux, ils ont réussi et ils passent à un autre. Donc, c'est vraiment une conquête. C'est pas la spiritualité. Comme on aimerait la voir, la spiritualité qu'on peut respecter,
c'est pas celle-là.
Sauf qu'il s'agit pas de celle-là. Il s'agit d'un islam politique conquérant. Et dedans, il y a la question de la France, il y a la question du rapport avec la France, il y a la question des Occidentaux, il y a la question des codes sociaux. Ma sœur, tu comprends, t'es pas une Française, donc tu peux pas te découvrir. Ma sœur, tu comprends, il faut que tu dises, Inch'Allah, t'auras. Voilà. Mais complètement.
Mais complètement.
Donc il s'agit pas de respecter la foi et de l'accompagner comme n'importe quel pays laïque peut le faire.
Pour progresser un peu plus vite que d'autres.
Ça pose quand même le problème de la laïcité à l'école. Moi, j'étais à l'école chrétienne. Voilà. Je pense qu'on parlait plus librement des autres religions.
Bien sûr.
Alors, il y en avait très peu, mais j'ai vu des musulmans avec moi à l'école chrétienne. On parlait plus librement de la religion et c'était plutôt encadré par des gens modérés. Les problèmes de religion, quand
t'avais le droit de faire
une
prière.
Et je pense que
dans une école religieuse,
t'as le droit de prier, bien sûr.
D'accord, mais là, on parle pas de ça. On parle de.
Non, mais je pense. Du coup, j'en arrivais à dire que je pense que la posture de laïcité qui devient presque une secte.
C'est ça.
La laïcité, il y a des fois, ça devient une secte.
Là, tu dérapes. Tu plaisantes ou quoi? Tu inverses les choses.
Je pense qu'il
y a une idéologie.
Il y a un prosélytisme.
Qui n'existait pas il y a 30 ou 40 ans, qui s'installe chez nous, qui a fait des ravages. On voit ce qui se passe en Iran.
Je ne conteste pas.
Et voilà, il faut dire non. Et alors là, inverser les choses, oui, mais comprenez, parce que vous êtes un peu trop sur la laïcité.
Non, c'est pas ça que je te dis.
Je suis en train de reprendre exactement les éléments de langage.
Des islamistes. Ce que je suis en train de te dire, c'est que l'école n'a pas les armes pour
mais
lutter contre.
Mais c'est pas son rôle.
Mais l'école
elle applique la laïcité.
Mais non, c'est d'ailleurs. Mais vous savez que c'est faux. Tout le monde se couche quand une classe se rebelle en disant tu parles pas de la guerre d'Algérie. Et ben le prof il ferme sa gueule et il y a personne qui fait cours.
Oui, mais enfin, je rappelle quand même qui a interdit le voile à l'école, c'est la gauche.
Non, mais
elle l'a oublié.
Mais oui, je fais pas de la politique, Olivier. J'essaie de comprendre ce que dit Étienne. Et je trouve que l'école aujourd'hui, elle a abdiqué. Parce qu'elle est tellement dans une posture de laïcité qui est intenable dans certains endroits qu'elle a abdiqué l'école.
Non, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'écoles.
Et les mecs qui se rebellent comme Paty, on sait comment
ils finissent. Il y a beaucoup d'écoles religieuses par ailleurs.
Ne dis pas, parle pas de laïcité.
Il y a beaucoup d'écoles religieuses par ailleurs qui permettent aux enfants de vivre pleinement leur.
Mais la laïcité, ça a pour but de protéger. Hein,
mais
ça n'a jamais pour but d'agresser.
Mais absolument. Mais comprends bien que quel que soit le jeune qui se pose des questions de type métaphysique, ne trouvera jamais la réponse auprès de laïcs modérés. Il la trouvera auprès d'extrémistes religieux.
Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un effet de la mondialisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, parce que aujourd'hui, via les réseaux sociaux, il y a plein de jeunes filles qui sont confrontées à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons et qui se disent, mais je comprends pas, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis ou en Angleterre, les filles,
Allemagne,
les garçons ou en Allemagne, ils peuvent venir avec leur tenue.
On n'est pas le même pays, on n'a pas la même histoire.
Leur religion portée sur eux.
Absolument.
Pourquoi
tu as raison.
Je ne peux pas le faire.
Parce que ce sont des pays où la religion est d'État. Je veux dire, c'est pas un jure sur la Bible aux États-Unis.
Mais écoutez,
c'est un État religieux par
moment. C'est pas une religion d'État, c'est pas le Vatican et c'est pas Monaco.
Oui, d'accord.
C'est pas ça, c'est pas une religion d'État.
D'accord.
On accepte que les confessions
viennent.
Sauf qu'on n'a pas cette histoire, on a le droit, c'est 1905, on n'a pas cette histoire. On n'a pas
de réaction. Non, mais écoutez ce que dit Alain, il dit pas que c'est bien ou mal. Il dit juste que les enfants. Aujourd'hui, avec la mondialisation, sont témoins.
Mais l'école, à quoi ça sert?
C'est
1905,
tout.
Faut leur expliquer. Non, qu'on a... Moi, personnellement, je leur explique. Et quand je leur explique, ils sont d'accord.
Ils ont l'impression que, du coup, si tu veux, on s'isole du reste du monde. Tout le monde.
C'est la vérité. C'est la réalité.
Mais enfin, du reste du monde. Enfin, au moment.
C'est-à-dire que l'objet du prolongurantisme, c'est comme ça, t'es à la page.
C'est pas ça.
C'est peut-être très bien.
Les séries Netflix.
Mais on s'isole pas du reste du monde. C'est faux. Personne pense.
Alors le Portugal, l'Italie,
les jeunes filles ont le droit d'avoir des voiles.
Les pays latinos. Non, mais c'est-à-dire que l'obscurantisme, ça nous permettrait d'être dans le coup.
Il y a une façon de retourner. On est en train de dire que les enfants.
C'est faux.
Alors, si les enfants ne regardent pas de série Netflix.
Non, leur modèle, pardon, je suis désolé, les gens qui envoient des vidéos TikTok, c'est pas des Américains.
Non.
Mais si, c'est des islamistes.
Mais ce qui compte, c'est les victimes, c'est pas les enfoirés qui font ça.
Ah bah non,
ce qui compte, c'est les bombes qui risquent de tomber dans le panneau.
Le mec qui droguait le dealer, on s'en occupe pas.
Mais non, ce qui compte, c'est le mec qui le met. Mais de ceux-là, si on peut les attraper, c'est encore.
On n'arrête pas les dealers.
Si le mec est encore, on peut l'attraper, c'est encore mieux. Mais ce que dit Alain est vrai.
On va regarder justement.
Ah bah si ceux qui font la propagande, on s'en occupe pas,
va les chercher derrière TikTok.
Ceux qui font la propagande, ils ont quand même aujourd'hui un terreau fertile qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans.
Ils sont peut-être même pas en France.
Oui, et puis ils surfent aussi sur nos lâchetés.
Voilà, merci.
Allez, disons-le. Et l'école, elle est lâche.
On verra déjà. Il y a une interpellation, il y a une réponse à apporter de la part de l'école, des pouvoirs publics. On verra ce qu'elle est et ça nous donnera de nouvelles discussions dans les GG, dans les grandes gueules. Dans un instant, on revient à la politique avec la France qui paraît-il à l'euro près, le gouvernement qui cherche une majorité pour faire passer la réforme des retraites, et puis un ministre de l'économie en col roulé. Monsieur le ministre, vous avez vu, nous aussi on fait attention, on met les cols roulés dans les GG. Ben, c'est Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics, qui sera avec nous dans les GG, dans le Face aux grandes gueules.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui notre agriculteur de Saône-et-Loire, monsieur Didier Giraud, qui est avec nous. Nous sommes avec Zora Bitan, cadre de la fonction publique, Étienne Yébig, qui est éducateur. On accueille notre invité pour le Face au GG.
RMC, les grandes gueules.
C'est l'homme qui tient les cordons de la bourse au gouvernement. C'est le ministre des Comptes publics qui est avec nous, monsieur Gabriel Attal. Bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes pas en col roulé?
Non.
Il a pas froid?
Moi, j'ai pas froid, donc j'ai pas besoin d'un col roulé.
Bah parce que votre collègue de Bercy, il est déjà en col roulé, Bruno Le Maire.
Oui, bah, chacun fait comme il veut, hein. Moi, voilà.
C'est pas ridicule, le coup du col roulé de la part d'un ministre, quand même.
Il a rappelé quelque chose, c'est que pour passer l'hiver dans un risque de pénurie de produits énergétiques et aussi parce qu'on va devoir garder une forme de sobriété pour des raisons environnementales, il faut qu'on se fixe un certain nombre de règles, notamment la température à 19 degrés. Mmh. Il a donné l'exemple du col roulé. Maintenant, c'est pas ça qui résume évidemment notre action pour la sobriété énergétique. Je vois que vous avez tous suivi à la lettre.
C'était un petit clin d'œil à la lettre. C'était un petit clin d'œil. Tout le monde pense qu'on a tourné macroniste.
Mais Gabriel,
il y aura pas de police du col roulé.
Oui, c'est ça, parce qu'on a quand même l'impression que un peu comme. Comme au moment du Covid, on commence à nous donner des conseils très concrets. Il faut chauffer à 19, il faut pas utiliser toutes les plaques de cuisson en même temps. Est-ce qu'on va en être là ? C'est-à-dire qu'on aura des conseils du gouvernement régulièrement en fonction de notre consommation d'électricité et de gaz cet hiver ?
C'est un équilibre qui est objectivement super dur à trouver, parce que d'un côté, il faut... Oui, donner des conseils, parce que la réalité, c'est que si on fait chacun des petits gestes, ça a un impact global très fort. Et en même temps, il ne faut pas tomber dans l'infantilisation. On dit aux gens comment il faut s'habiller, le nombre de douches qu'il faut prendre, la durée sous sa douche, etc. Donc voilà, il va y avoir une campagne de communication.
Certains de vos collègues ont parfois la tentation de le faire, ça.
Je dis que c'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver. Voilà. Et il va y avoir une campagne de communication qui va être portée, justement, pour donner des exemples.
Des gestes quotidiens.
Il y a un site qui est pas mal fait, qui s'appelle EcoWatt, qui donne des conseils déjà sur le quotidien. C'est un outil qu'on va adapter. Voilà, moi je trouve que le critère là, des 19 degrés, c'est quelque chose qui est plutôt clair et ça peut être une boussole pour tout le monde. Après, chacun fait comme il veut face à ça.
Vous présentez le budget pour la France en 2023. C'est un budget assez laxiste en fait, parce que j'ai regardé, 270 milliards, c'est ce que la France va emprunter l'an prochain pour financer ses dépenses. C'est du jamais vu.
Ah bah c'est à peu près la même chose que l'an dernier, que l'année d'avant. Je crois que c'était 260
milliards.
Moi, je peux vous dire, j'ai fait toutes les négociations budgétaires avec mes collègues du gouvernement qui sont venus dans mon bureau avant l'été. Ils sont pas sortis toujours très satisfaits de mon bureau et personne considère qu'on est laxiste. La réalité, c'est quoi ?
Budget d'austérité, vous dépensez beaucoup.
Mais alors, on assume de ne pas faire.
11 000 fonctionnaires supplémentaires.
On assume de ne pas faire de l'austérité. Ça serait une erreur économique et donc budgétaire de faire de l'austérité. Parce qu'on a vu après la crise 2008-2010, pour le coup, des choix politiques qui ont conduit à dire on serre de manière très brutale tout de suite, etc. On a vu l'impact ensuite économique. La destruction d'emplois, destruction de valeur et derrière, en plus, des augmentations d'impôts pour les Français.
Donc on dépense sans compter ?
Non, bien sûr qu'on compte. Et on compte tout. Ce qu'on dit.
Vraiment à l'euro près, parce
on s'est fixé.
L'euro près, c'est ce que dit Bruno Le Maire, mais quand on emprunte 270 milliards d'euros, on n'est pas à l'euro près.
En gros, on s'est fixé une règle qui consiste à dire qu'on veut que la progression de nos dépenses aille moins vite que la progression de nos recettes. Ça paraît tout bête comme ça, mais déjà, si on arrive à se remettre dans ce chemin-là, et c'est ce qu'on a commencé à faire, on réduit nos déficits. Et d'ailleurs, on les réduit depuis 3 ans. Le déficit en 2020, c'était 8,9%. Le déficit en 2021, c'était 6,5%, donc ça a déjà baissé. Et le déficit cette année, c'est 5%. Et on a une trajectoire qui est prévue pour revenir sous les 3% en 2027. Donc on voit que le déficit a baissé ces dernières années, il va continuer à baisser dans les années qui viennent, ce qui ne veut pas dire qu'on arrête de dépenser. Parce que la réalité, c'est qu'il y a des priorités politiques. Vous parliez tout à l'heure, je crois, des questions de sécurité. Oui, on assume de dire qu'on veut améliorer la sécurité des Français, que ça passe par des recrutements de fonctionnaires de police, de gendarmerie. Oui, ça coûte de l'argent.
Mais où sont les économies ?
On assume.
Vous pourriez très bien faire des économies pour pouvoir embaucher des policiers.
On assume de mettre de l'argent. Mais encore une fois, je vous dis.
Il y a des économies dans ce budget ?
Bien sûr qu'il y a des économies. Tous les ministères font des économies.
Lesquels, par exemple ?
Tous les ministères font des redéploiements. On sort, par exemple, de dispositifs qui avaient été mis en place pour accompagner des entreprises dans le cadre du plan de relance. On diminue la voilure sur un certain nombre de dispositifs. On demande des efforts dans certains secteurs. Je vous donne un exemple. Le secteur de la biologie médicale, qui a fait un certain nombre de gains pendant le Covid avec les tests. 7 milliards d'euros. Je ne les pointe pas du doigt. Je ne dis pas c'est des profiteurs ou autres. Ils ont été hyper utiles pour permettre de faire les tests. Non, on leur demande un effort sur leurs tarifs à partir de l'an prochain. C'est 250 millions d'euros d'économies. Voilà, il y a d'autres secteurs comme ça où je pourrais multiplier les exemples. Mais encore une fois, vous avez aujourd'hui dans le débat politique... En gros, la NUPES qui dit qu'on dépense pas assez, les LR qui dit qu'on dépense trop. Moi, mon combat, c'est qu'on dépense mieux. C'est que l'argent des Français, il soit utilisé plus efficacement. Oui. Et surtout que la NUPES nous dit vous dépensez pas assez, ils sont pas capables de nous dire comment on pourrait financer des dépenses supplémentaires.
Si, avec les taxes sur les super profits.
Ouais, ça couvre pas toutes les dépenses qu'ils proposent. Et les LR qui nous disent vous dépensez trop, hier ou lundi, j'étais à l'Assemblée nationale face à eux, j'aurais dit, mais donnez-moi des exemples de politique, vous couperiez. 3 milliards en plus sur la défense. Au moment où il y a la guerre en Europe, on arrête ? Ah non. 1,4 milliard en plus sur la sécurité au moment où les Français attendent qu'on renforce
la
sécurité
en difficulté
du quotidien.
Par rapport
on
à
arrête
cette dette.
Bah non.
Oui, mais est-ce
l'hôpital...
qu'on met pas la France en difficulté par rapport à cette dette ? Alors c'est sûr que pour nous là, on n'est pas impacté directement, mais c'est nos enfants, nos petits-enfants qui devront payer un jour cette dette.
Alors c'est pour
Et
ça
il y aura forcément à un moment donné une note à payer.
C'est pour ça qu'il faut être responsable. Le quoi qu'il en coûte, c'était quoi ? Le quoi qu'il en coûte, c'était on est face à une situation de crise où l'économie est complètement à l'arrêt et donc on dépense sans compter pour permettre à notre économie de tenir. C'est ce qu'on a fait et on a eu raison de le faire. Les études économiques disent aujourd'hui que si on n'avait pas fait le quoi qu'il en coûte, il y aurait 10 points de dette en plus parce qu'on aurait payé l'assurance chômage de tous les Français qui auraient perdu leur boulot et l'accompagnement de toutes les boîtes qui auraient fait faillite. Mais on n'est plus dans le quoi qu'il en coûte puisque maintenant on a, je vous le disais à l'instant, des objectifs de déficit qu'on doit tenir pour baisser chaque année le déficit par rapport à l'année précédente. C'est ce qu'on fait depuis 3 ans, c'est ce qu'on va continuer à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête de dépenser, parce que la réalité, c'est quoi ? C'est que les Français, ils attendent de nous qu'on investisse sur un certain nombre de secteurs. Sûr, oui. L'éducation, c'est un budget qui augmente l'an prochain, parce qu'on veut mieux payer les profs et mieux accueillir les élèves.
Enfin, sauf que le chèque énergie, le chèque ceci, le chèque cela, c'est pas de l'investissement, ça. Hein. Moi, quand j'écoute Bruno Le Maire qui nous dit « mettez un pull et puis on va baisser le chauffage », j'attends pas ça de mes ministres, quoi. Moi, j'attends de mes ministres qu'on ait de la perspective, qu'on remette en route les centrales nucléaires qui sont à l'arrêt, qu'on ait un plan de développement de l'éolien, du photovoltaïque, et puis qu'on ait un vrai débat de société entre le foncier agricole et le foncier qui va produire de l'énergie demain. Parce que concrètement, sur le terrain aujourd'hui, c'est un bordel sans nom, quoi. Il n'y a pas une semaine sans qu'un agriculteur soit pas sollicité par une boîte de photovoltaïque pour mettre des panneaux plein champ ou pour monter un méthaniseur. Alors qu'on sait très bien que demain matin, il y a aussi un enjeu de sécurité alimentaire, quoi. Elle est où la perspective là ? Moi, je la vois pas la perspective.
Je pense que l'important, c'est de faire les deux. Moi, je fais pas de concurrence entre protéger les Français aujourd'hui face à une crise qui nous frappe aujourd'hui avec l'inflation sur les prix de l'énergie. Je pense que les Français qui nous écoutent, qui nous regardent, sont quand même soulagés qu'on limite la hausse de la facture d'électricité et de gaz
particulier,
à 15% l'an prochain.
Les entreprises, ils vont passer à la trappe à nel. Et indirectement, on va augmenter l'inflation, quoi.
Je vais y venir. Et on fait aussi des aides pour les entreprises qui vont rentrer en vigueur au 1er octobre. Donc, il faut agir sur l'urgence du moment. Mais il faut aussi, et là je suis totalement d'accord avec vous, investir pour l'avenir. Mmh. Et c'est ce qu'on fait aussi. Le plan sur le nucléaire et le réinvestissement massif dans le nucléaire, il a été annoncé par le président de la République et il commence à se déployer sur les ENR. Il y a un texte de loi qui a été présenté en Conseil des ministres lundi pour accélérer le déploiement. Et sur le foncier agricole, totalement d'accord avec vous, il faut remettre de l'ordre là-dedans. Il faut soutenir aussi les agriculteurs et l'installation des jeunes. Et on a un texte de loi qui va être préparé par mon collègue ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, début 2023. Donc, je dis, il n'y a pas de concurrence entre les deux, parce que la réalité, c'est que on ne peut pas imaginer de dire aux Français, il y a une crise sur les prix de l'énergie, l'électricité va coûter 120% de plus et votre facture va augmenter de 120% l'an prochain. C'est pas possible. On doit faire en sorte de limiter au maximum l'impact. Elle augmentera de 15%.
Notre collègue Johnny Blanc vient de nous appeler tout à l'heure. 400%. Et il nous explique que c'est quand même 400%. Hein.
En tant que fromager.
La priorité aujourd'hui pour nous, déjà, c'est de refroidir le marché de l'électricité. Parce que c'est vrai que les tarifs et les prévisions de tarifs aujourd'hui qu'il y a sur le marché, les contrats qui sont proposés à des entreprises ou des collectivités locales sont juste pas soutenables. Ah oui. Donc, c'est quoi le cœur de notre action aujourd'hui déjà ?
Mais c'est les contrats, ils arrivent là maintenant.
Oui, ils arrivent, mais le cœur de notre action.
Je connais des gens qui ont cessé leur production. Les déshydrateurs de betteraves, donc qui est un sous-produit du sucre qui sert à l'alimentation animale, ils ont dit haut et fort. On arrête.
Bien sûr, mais
on arrête de déshydrater.
On a plein d'exemples de secteurs qui consomment beaucoup d'énergie, les tours de séchage de lait, d'autres qui consomment beaucoup d'énergie.
Alors comment vous allez faire pour refroidir ?
Il y a deux choses. Un, refroidir, ça se passe au niveau européen, parce que la réalité, c'est que il faut changer les règles de calcul de l'électricité.
Quand est-ce qu'elles seront changées ?
Il y a une réunion très importante le 30 septembre qui se tient au niveau européen. Et ce qu'on veut, c'est, on a fait des propositions très concrètes, arriver à un certain nombre d'évolutions pour faire baisser le prix de l'électricité sur le marché et le prix du gaz. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il va rester assez élevé de toute façon. Et donc, il faut accompagner les entreprises qui consomment beaucoup d'énergie. On a mis en place une aide, 3 milliards d'euros, pour accompagner ces entreprises. À partir du 1er octobre, on pourra faire sa demande sur le site impots.gouv.fr et bénéficier d'une aide et d'un accompagnement. Je parle là des entreprises qui ont plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, puisque en dessous de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous avez accès aux tarifs réglementés. Comme tous les Français.
Mais même les tarifs régulés augmentent, il faut le dire.
Gabriel,
ils augmentent. Je rappelle que si on ne faisait rien, l'augmentation sur les tarifs réglementés, pour tous les Français qui nous écoutent et qui nous regardent, ça serait 120% d'augmentation, donc plus du doublement de leur facture sur l'électricité et le gaz l'an prochain. Parce qu'on agit, qu'on met des moyens, ça sera limité à 15%. Je ne dis pas que c'est rien, c'est une hausse. Et pour beaucoup de Français, ça veut dire devoir faire des choix et c'est difficile pour boucler les fins du mois.
Mais la France s'en sort mieux que les autres.
En fait, vous regardez l'inflation dans la zone euro, on a 4 points de moins. C'est-à-dire l'inflation en France est 4 points inférieure à celle de la zone euro. Et l'INSEE a fait une étude intéressante récemment où elle dit si le gouvernement n'avait pas pris ces mesures, on aurait une inflation de 3 points et demi supérieure. Donc on voit bien que la politique qu'on a mise en place, certes, elle coûte, mais au moins elle fonctionne puisqu'elle limite l'augmentation des factures des Français. Et moi, je pense aussi que si on le faisait pas, il y aurait des dégâts économiques derrière. Parce que la réalité, c'est que la consommation s'effondrerait et donc les entreprises seraient encore plus en difficulté. Il faudrait dépenser encore plus d'argent pour les accompagner. Donc les choix qu'on a faits, moi je pense, sont les choix raisonnables.
Et bien on va continuer d'en discuter, parler de la réforme des retraites avec le ministre des Comptes Publics dans son face au GG dans un instant sur RMC, RMC Story.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
C'est le ministre des Comptes Publics, c'est Gabriel Attal qui est avec nous aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules. On a parlé des économies d'énergie, du budget du gouvernement. Reste un gros dossier pour la majorité, c'est la réforme des retraites. Pour la faire passer, il n'y aura pas d'autre choix que le 49-3. Elle passera en force, là, la réforme, Gabriel Attal.
Bah, on verra. Nous, on souhaite évidemment toujours tendre la main plutôt que tordre le bras. Hein. Et d'ailleurs, ce que je constate, c'est que dans la campagne présidentielle, il y a plusieurs candidats qui ont dit qu'il fallait une réforme des retraites, qui se sont engagés sur une réforme qui consiste à dire qu'on travaille plus longtemps et que si vous prenez la somme des députés qui soutenaient ces candidats, il y a une majorité. En l'occurrence, les LR, par exemple, défendaient pendant la campagne présidentielle une réforme des retraites. Donc, s'ils sont cohérents avec leurs engagements et avec leur prise de position, théoriquement, ils devraient la voter et donc il devrait y avoir une majorité. Maintenant, je suis aussi lucide sur le fait qu'il y a beaucoup de positionnements politiques, politiciens, où vous avez régulièrement des députés qui se sont engagés sur des choses, qui ont dit nous on est favorable à telle mesure, mais une fois qu'elle arrive dans l'hémicycle, comme elle est présentée par le gouvernement, ils votent contre.
La réforme pourrait être présentée au mois de janvier ?
Nous, ce qu'on a dit, c'est que la réforme devait entrer en vigueur à l'été 2023. À partir de là, il y a plusieurs possibilités pour la présenter au Parlement et qu'elle soit votée, soit le faire là dans les prochaines semaines, soit le faire en début d'année 2023. C'est un débat qui n'est pas encore totalement tranché.
C'est pas exclu que ce soit en janvier.
Non, c'est pas exclu.
Parce que j'entends François Bayrou dire il faut prendre du temps.
Ouais, il y a un débat.
Précipité.
En fait, il n'y a pas de débat dans la majorité sur le fait de faire ou pas la réforme. Il n'y a pas de débat non plus sur le fait.
Si, il y a un débat.
Ah non, pas non. Sur le fait que de faire une réforme des retraites.
Il y a un débat sur le calendrier, oui.
Sur le fond, oui, c'est important quand même de le dire. Parce que je trouve qu'on parle beaucoup de la forme ces temps-ci et pas du fond. Tout le monde est d'accord dans la majorité sur le fait qu'il faut une réforme des retraites. Tout le monde est d'accord dans la majorité sur le fait qu'elle doit consister en travailler un peu plus longtemps. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle doit rentrer en vigueur à l'été 2023. D'accord. Là où il y a un débat, c'est sûr, est-ce que le Parlement l'examine dans quelques semaines ou dans
mais trois mois ? Mais vous, est-ce que vous dites il faut la faire tout de suite ou au contraire, il faut prendre son temps ?
Moi, je pense...
Gabriel Attal, il pense quoi ?
Gabriel Attal, il pense qu'il faut qu'elle rentre en vigueur l'été prochain.
D'accord, mais
ensuite,
est-ce qu'il pense qu'il faut la faire là tout de suite ou est-ce qu'il faut lancer tout ça en janvier ?
Moi, je pense que ça a un intérêt de prévoir de la lancer un peu plus tard en janvier, si et seulement si... Ça permet du dialogue qui est utile pour la réforme. Or, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, tous les interlocuteurs syndicaux, par exemple, et beaucoup d'interlocuteurs politiques, contestent le principe même de dire qu'il faut travailler un peu plus longtemps. Donc, à partir de là, vous vous dites que les marges de discussion sont quand même assez réduites. Quoi.
Donc, ça ne changera rien en janvier.
Si vous faites une charrette de 49.3 pour le budget, autant la mettre dedans, ce sera réglé, et puis on avance. Quoi, hein. Parce que non, mais à un moment donné.
C'est la méthode Giro.
Non, la méthode paysanne, mais c'est assez efficace.
Charrette,
on met tout dans la charrette, parce que du coup, il va falloir faire le 49.3 un coup pour le budget, et puis il faudra refaire un coup le 49.3, parce que tout le monde sera contre en janvier pour la réforme des retraites. Alors,
moi, je dis, prendre quelques mois pour discuter, ça a du sens si on discute. Pour discuter, nous on est prêt à le faire.
Je dis exactement la même chose que
sauf
vous.
Sauf qu'on ne connaît pas encore vraiment la réforme. C'est là où vous dites tout le monde est contre.
On connaît le point de départ. La base de travail, oui, c'est l'engagement de campagne du président.
On peut faire travailler les Français plus de différentes façons. On joue sur l'âge de départ, on joue mais sur la durée de cotisation.
Ce qui montre qu'on est ouvert en fait.
Il y a aussi des régimes spéciaux.
Le président, il a dit dans la campagne, ma proposition, c'est de passer sur 10 ans progressivement à 65 ans. À partir de là, il peut y avoir une discussion. On peut jouer, vous l'avez dit, sur d'autres paramètres aussi. C'est-à-dire la durée de cotisation. À ce moment-là, sur l'âge, on fait un peu moins, etc. Mais nous, on est prêts à avoir cette discussion.
Parce
le problème.
On a un système complexe. Parce que vous dites, oh, c'est simple. Mais non, on a un des systèmes les plus complexes au monde. Notre système de retraite, il y a 40 régimes différents.
Ah ouais.
Donc, forcément, tout le monde a peur pour soi en se disant, mais à quel sou je vais être mangé?
Bien sûr.
Vous l'entendez, ça, cette crainte, cette peur des Français qui exprimaient dans les sondages?
Mais évidemment, parce que la question de la.
Non, bah écoutez, ça a été tranché.
Tout le monde se projette plus ou moins, selon son âge, par ailleurs, dans sa retraite. Et donc,
combien
se pose des questions et se demande. Nous, ce qu'on dit, c'est que s'il y a une inquiétude des Français qui est réelle aujourd'hui, c'est déjà le fait de savoir si le système de retraite va tenir jusqu'à ce qu'il soit à la retraite. Alors, ça fait très longtemps qu'on entend ça, etc. Mais le fait est, aujourd'hui, que le système n'est pas financé à moyen terme. Parce que vous avez de plus en plus de retraités par rapport aux gens qui travaillent. On a un système où en fait, c'est pas chacun travaille toute sa vie et met de côté pour sa retraite. C'est, vous avez des gens qui travaillent et qui payent la retraite de gens qui sont à la retraite. Mais avec le vieillissement de la population, il y a de plus en plus de retraités par rapport aux actifs. Donc, de toute façon,
le système n'est pas en péril.
C'est pire en Italie.
À court terme, c'est-à-dire aujourd'hui.
À court terme, mais pas à long terme.
Non, mais aujourd'hui, il n'est pas en déficit. Par contre, sur le moyen terme, sur le long terme, c'est ce qu'a dit le Conseil d'orientation des retraites.
Pas si,
ils ont remis un rapport.
Pas aussi simple que ça.
Bah, en fait, c'est-à-dire souvent, ceux qui disent que le système n'est pas déficitaire, ils partent du principe que l'État va continuer à compenser pour éviter qu'il soit déficitaire. Bah, c'est sûr que si on part de là, oui. La réalité, c'est qu'il est déficitaire. Et par ailleurs, si on veut pouvoir financer des mesures supplémentaires pour la transition écologique, pour l'éducation, pour la sécurité des Français, ça demande de l'argent en plus.
Comme ça n'a rien à voir avec les retraites.
Bah, ça demande de l'argent en plus pour financer ces priorités.
Ouais, mais
comment vous le trouvez l'argent?
Vous dites aux Français, vous travaillez plus parce qu'il faut financer la transition écologique.
Ce que j'ai dit aux Français, c'est que si on veut financer la transition écologique, l'éducation, la sécurité, il faut des moyens supplémentaires. Les moyens supplémentaires, vous avez trois manières de les trouver. Soit vous faites de la dette en plus, on a discuté tout à l'heure, c'est pas possible, ça sera des impôts que les gens paieront de toute façon dans quelques années si on le fait. Deux, vous augmentez les impôts aujourd'hui. Je suis pas sûr que les Français soient très ouverts. Trois, vous augmentez le volume de travail dans notre pays. Parce que plus vous avez de Français qui travaillent, plus vous avez de cotisations sociales qui sont versées, plus vous avez de recettes fiscales parce que les gens travaillent. Et donc la réalité, c'est que oui, il faut augmenter globalement le volume du travail en France. Ça veut dire quoi? Un, faut que mieux former les jeunes. On en parlait avec Zora Bidman pendant la pub. Mieux former les jeunes pour que les jeunes travaillent davantage. Deux, faire la réforme de l'assurance chômage. Pour que aujourd'hui les entreprises qui cherchent à recruter, qui n'arrivent pas à trouver preneur, il y a une plus grande incitation à reprendre le travail pour ceux qui sont au chômage. Et trois, oui, travailler un peu plus longtemps dans la vie, même si on tiendra compte des carrières de chacun.
Etienne Ibig.
Bon, alors j'ai vu avec bonheur qu'il y avait pour la première fois vraiment quelque chose sur les violences familiales et sur le fait qu'il allait y avoir des policiers qui allaient être sur ces questions de violences familiales et de cybercriminalité. Donc ça, bravo. Mais je voulais vous poser une question parce que moi, je suis affolé par la question de la dépendance et de la très grande vieillesse et le fait que quand je regarde les chiffres que ça représente, c'est absolument inouï et c'est tout, ça va augmenter en permanence. On voit le nombre. Alors plus on vieillit, plus on a des chances d'attraper des maladies très graves qui coûtent très cher à être soignées, etc. Et plus il y a de gens qui se trouvent concernés par cela. Et moi, je me demande vraiment si on va pouvoir continuer de dire bon voilà, c'est un, on va y aller, on va arriver à financer, ou si vraiment ce poste-là à lui tout seul qui va bientôt, je sais pas combien. 25-26%, ça a tellement tout cassé, tout éclaté. Comment on va faire dans les années à venir?
Ça, c'est un vrai sujet. C'est que oui, on va avoir besoin de plus en plus de moyens pour accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie, parce qu'on a un vieillissement de la population. Que par ailleurs, les gens vivent plus longtemps, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faut les prendre en charge. Ça coûte de l'argent en plus. D'où aussi la réforme des retraites, parce qu'on a besoin de moyens en plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà annoncé un certain nombre de mesures. Et d'ailleurs, c'est dans le budget là. Donc ceux qui me disent oui, le budget augmente, bah oui, faut financer un certain nombre de priorités. Un, on va financer 2 heures d'accompagnement en plus à domicile pour les personnes qui sont en perte d'autonomie à domicile. Deux, on lance le plan de recrutement massif de soignants pour les EHPAD. On a vu qu'il y a encore un problème aujourd'hui de manque de soignants dans les EHPAD. Trois, on lance une nouvelle aide pour accompagner les personnes âgées qui vivent chez elles pour adapter leur logement. Ça s'appelle ma prime adapte. Quand vous êtes une personne âgée, il faut mettre une rampe sur un escalier, oui. Il faut transformer la douche.
C'est ce que vous faites, c'est
transformer
génial,
la baignoire en douche, c'est ce qu'on va faire.
Mais dans l'avenir, enfin, je veux dire, ce truc-là, il est exponentiel.
Oui.
Ce budget-là est exponentiel. Un jour, il va représenter la moitié du budget de la France.
Ça va coûter de plus en plus cher parce que la population vieillit de plus en plus.
J'ai bien compris.
D'où, encore une fois, l'importance d'augmenter la durée globale du travail,
les cotisations.
Ça finance aussi la dépendance.
Bien sûr.
Mais c'est pas un débat national.
Notre système de retraite a bon dos quand même, parce que en fait le système de retraite doit financer
la dépendance, le système de retraite, attention.
La transition écologique, les policiers.
Non, c'est pas que le système de retraite, c'est le fait que vous ayez plus de gens qui travaillent.
Ça, il faut faire baisser le chômage.
C'est la création de richesse.
Il faut faire baisser le chômage, mais il faut aussi.
On est encore à 7%.
Il faut aussi augmenter ce qu'on appelle le taux d'emploi. Ça veut dire que des personnes qui aujourd'hui ne sont pas dans le marché du travail, elles travaillent. Si on avait le taux d'emploi de nos voisins allemands, moi j'aurais moins de travail en tant que ministre du budget parce que les finances publiques seraient plus équilibrées. Parce que la réalité, c'est que le premier moyen d'augmenter nos finances publiques, d'avoir plus de cotisations sociales, plus de recettes fiscales, c'est qu'il y ait plus de gens qui travaillent.
Mais rentrer 1 450 000 migrants pour travailler.
Une dernière question pour vous, monsieur le ministre. Les élus de la NUPES et certains élus Renaissance ont raison de boycotter le match de foot.
Non, mais j'ai vu ce débat.
Avec le Rassemblement National, les élus du Rassemblement National.
J'ai vu ce débat, je dis sincèrement, Il y a la guerre au cœur de l'Europe, il y a l'inflation, il y a des problèmes de sécurité, il y a des Français qui se demandent si leur facture va exploser ou pas. Honnêtement, je trouve qu'il y a des débats qui, moi, me semblent pas prioritaires. Voilà. Par ailleurs,
mais est-ce qu'un député Renaissance,
je suis pas là.
Député
non, mais moi, je suis pas député. Je suis au gouvernement. Je vais pas donner faire la leçon aux uns et aux autres. Je vais pas à me prononcer sur ce sujet-là.
Ça vous choque pas si tout le monde joue ensemble?
Je n'ai pas à me prononcer sur le sujet.
Alors là, pour le coup, vous
non, mais je trouve encore une fois. Non, je tape en touche. Je considère que c'est pas.
Restez sur le terrain.
Ça me semble pas. C'est pas un sujet qui me semble justifié qu'on y passe des heures.
À ces députés, vous leur mettez un carton jaune ou un carton rouge à ces députés?
Je ne suis pas l'arbitre des choix des uns et des autres. Des députés.
On va vous libérer. Merci, monsieur le ministre, parce que vous avez un agenda chargé. Je vous en prie, vous pouvez y aller directement. Et nous, on va appeler. Et c'était merci de vous être rendu disponible pour les GG. Manquerait plus que ministre retombe et se casse quelque chose. Tiens.
Au revoir.
Merci, monsieur Vatal. Bonjour, madame.
Je suis très gênée. On va faire un sujet qui n'est pas prioritaire. Parce que nous, on va parler du match de foot, justement. Tiens. Et des députés LFI et PS qui refusent de jouer avec des députés RN. Est-ce que c'est logique ou choquant pour vous? Vous nous appelez, vous réagissez au 32-16. J'ai mis moi-même mon pull à col roulé, comme Bruno Le Maire.
Tira du coup un peu haut, quoi.
C'est un petit ras du coup. C'est vrai que j'ai pas trouvé de vrai col roulé. En tout cas, Bruno Le Maire qui pose en pull, est-ce que c'est ridicule? Voilà, c'est la question que vous posera à 13h. Et puis enfin, une famille sur cinq en France est une famille nombreuse, c'est-à-dire avec trois enfants ou plus. Mais famille nombreuse, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis?
Famille nombreuse, famille heureuse?
Je suis pas sûre.
Je vais témoigner, tiens, au 32.
Ah, et ben témoigner, Olivier, bien sûr. En tout cas, on attend justement vos témoignages, vos retours d'expérience au 32-16. Famille nombreuse, on en parle à 14h avec Fatima Benoît, Pierre, Édouard Magnan et Fred Hermel.
On se retrouve demain entre midi et de n'importe quoi, entre 9h et midi. Marianne Soubré, avocate, Mehdi Guézard, chef d'entreprise. Kevin Bossuet, professeur d'histoire-géographie. Alors demain, on a un autre face au GG demain.
Ah bon?
Avec Fabien Roussel.
L'homme du barbecue, de la viande.
Et de la gauche du et travail pas et pas des allocs. Voilà. Il sera face au GG demain. Passez une bonne journée, rendez-vous 9h. Et un petit coucou à BFM Blaireau. Normandie.
Ah,
nouvelle venue dans les chaînes locales.
Oui.
On les salue. Ils vont émettre à partir de 17h. Longue vie.